Arthur Bernède, Judex. Premier épisode, L'ombre mystérieuse. Chapitre 1, Le cheminot du destin. Sur les bords de la Seine, entre Mantes et Bonnières, presque en face du château des Sablons, dont la silhouette imposante se dessine somptueusement au milieu des frondaisons d'un parc immense, un cheminot, au visage ravagé par la fatigue et la misère, examinait d'un air sombre un vieux moulin, jeté sur un des bras du fleuve, et qui, depuis longtemps abandonné, disparaissait aux trois quarts sous un inextricable fouillis de vignes vierges et de lierres. Bientôt, un sanglot douloureux secoua la poitrine du vagabond. Dire que tout cela a été à moi, s'écria-t-il. Ma pauvre femme, mon fils, tout mon passé, tout mon bonheur. Mieux vaudrait en finir tout de suite. Mais je n'ai pas le droit de me tuer. J'ai mon fils à sauver, mon fils. Allons, courage, il le faut. Oui, courage. Après avoir enveloppé d'un regard noyé de larmes ce coin agreste qui éveillait en lui de si poignants souvenirs, l'inconnu traversa la route, s'arrêta devant une grille monumentale dont les dorures étincelaient sous les rayons d'un clair soleil de juin, et se mit à contempler, à travers les barreaux, avec une sorte d'avidité farouche, les allées aux cailloux fins, les pelouses émaillées de fleurs rares, les belles statues toutes blanches, et la demeure vraiment princière, devant laquelle, dans un vaste bassin de marbre, des cygnes nageaient majestueusement, parmi le jaillissement svelte et continu d'un jet d'eau digne du palais de Versailles. Au lointain, c'était le murmure d'un orchestre au rythme enveloppant et tendre. Et dans l'intervalle des bosquets, des couples, tous de jeunesse et d'élégance, tournoyaient enlacés en une danse de printemps et d'amour. Les larmes du cheminot s'étaient séchées. Maintenant, ce n'était plus du désespoir que reflétaient ses yeux. C'était une haine grandiose, superbe, qui donnait à ses traits une expression de noblesse en même temps que de mystère, et le faisait ressembler à quelque envoyé du destin venu pour troubler la fête. Un homme d'un certain âge, à la barbe et aux cheveux blancs, d'allure distinguée mais d'apparence frêle et délicate, s'approcha, demandant au vagabond, sur un ton de bienveillante pitié, « Que voulez-vous, mon brave ?»« Parlez au banquier Favreau. »« Ah, monsieur Favreau est très occupé. Je suis son secrétaire et je puis peut-être... » Tirant de sa poche une pièce d'argent, Vallière la tendit au vagabond qui protesta aussitôt avec une énergie farouche. « Je ne demande pas l'aumône. Je vous répète qu'il faut que je parle à monsieur Favreau. » Comprenant qu'il se heurterait à une volonté inébranlable, Vallière s'en fut rejoindre le banquier. À l'écart de ses invités, dans un discret berceau de verdure d'où l'on apercevait un panorama splendide auquel, presque au premier plan, le vieux moulin aux trois quarts ruiné ajoutait une note charmante et pittoresque, Favreau se penchait amoureusement vers une fort jolie personne à la mise très simple et au maintien réservé. « Monsieur, annonça le secrétaire, il y a devant le portail un homme que je ne connais pas et qui insiste vivement pour vous voir. » Avec un geste d'impatience, M. Favreau, dont la maturité robuste, la sobre élégance, le visage glabre et le regard d'acier en faisaient le prototype de nos grands marchands d'or moderne, demanda sèchement « Quel est cet individu ?»« Un cheminot, monsieur. » « Un cheminot, et c'est pour ça que vous me dérangez ?»« Ce malheureux paraît très excité et j'ai craint qu'il ne se livrât à quelque extravagance. À ces mots, un nuage rapide passa sur le front du banquier. Puis, tout en enveloppant d'un regard de passion violente la très séduisante créature qui se trouvait près de lui, il fit d'une voix dont il s'efforçait d'atténuer la rudesse naturelle, « Vous permettez, ma chère amie ?»« Je vous en prie, » répliqua la jeune femme en baissant avec modestie ses yeux qu'elle avait noirs et profonds. Favreau, accompagné par son secrétaire, s'avança d'un pas résolu vers le portail, devant lequel le vieil inconnu attendait. Et tout de suite, arrogamment, il interpella « Que me voulez-vous, madame ?» Jetant à terre son chapeau de feutre jauni par les intempéries, et découvrant un visage torturé par la plus atroce des douleurs, le cheminot s'écria « Vous ne me reconnaissez pas ? Oh, je ne vous ai jamais vu. Je suis Pierre Kerjean. » « Pierre Kerjean, » répéta le banquier, qui ne put réprimer un léger tressaillement. « Allons, » continuait le vagabond, « rappelez-vous, monsieur Favreau. J'étais jadis un honnête homme. Je possédais, tout près d'ici, de l'autre côté de la route, un moulin et quelques terres. Je vivais heureux avec ma femme et mon enfant. Et un jour, vous êtes arrivé dans le pays. » Vous avez acheté cette propriété des Sablons. Et pour agrandir vos domaines, vous m'avez demandé de vous vendre mon bien. Séduit par la somme importante que vous me proposiez, je vous ai cédé. Puis, endoctriné par vos belles paroles, je vous ai confié mon argent. Alors non seulement vous m'avez ruiné, mais vous êtes cause que je me suis laissé entraîner, moi, un brave homme, à des spéculations hasardeuses et même à des actes malhonnêtes. C'est bon, je n'ai pas eu autant de chance que vous. Je me suis fait prendre tout de suite, c'était fatal. J'ai été condamné à 20 ans de travaux forcés. Ma femme est morte de douleur et de honte. Et je ne suis sorti du bagne que pour apprendre à la mairie de ce village que mon fils s'est laissé seul, livré à lui-même, était devenu un scélérat. Et après ? Bravait insolemment le banquier qui s'était ressaisi. Bon, je ne vous réclame pas d'argent, poursuivit le vieux. Je ne veux même pas me venger. J'exige simplement que vous m'aidiez à retrouver mon fils et à le sauver. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. « Tu ne sais pas ?» rugit le cheminot en avançant le poing à travers les barreaux. « Mais tu es donc encore plus misérable que je ne le pensais. Si vous avez des droits à faire valoir, adressez-vous à la justice. »« La justice !» ricana l'ex-forçat. « Je la connais, la justice. Pendant 20 ans, elle a fait de moi un damné. Tandis que toi, le vrai, le principal coupable, tu continuais à t'enrichir avec le bien des autres, accumulant sur ton passage toutes les ruines et tous les désastres. Et quand je viens te réclamer un peu de pitié, tu me dis de m'adresser à la justice, mais tu veux donc m'écraser jusqu'au bout. Ah, c'est lâche, c'est abominable. Puisqu'il en est ainsi, le peu de temps qui me reste à vivre, je veux le consacrer à te haïr. Oui, chaque jour et à chaque heure, tu me verras me dresser devant toi, reproche vivant de tes crimes et de tes infamies. Tu m'entendras te crier, tu n'es qu'un voleur et un bandit. Tandis que Favreau, haussant les épaules d'un air méprisant, s'éloignait de la grille, et que Vallière, avec des paroles pleines de mansuétude et de pitié, s'efforçait de calmer la colère du vieux Kerjean. Celui-ci eut un dernier rugissement. « Sois maudit, banquier Favreau, sois maudit à jamais !» Puis ramassant son chapeau et remontant sa besace, Il reprit sa route, tout en grinçant entre ses dents. Je me vengerai, oui, je me vengerai. C'était fort, l'avait brisé. À peine eut-il parcouru un demi-kilomètre qu'il dut s'arrêter. S'effondrant sur un tas de pierres, laissant tomber près de lui son sac et son bâton. La tête entre les mains, il se mit à pleurer, évoquant comme à travers un lointain brouillard les années heureuses, hélas, si vite envolées. Tout à coup, Kerjean tressaillit. Le grondement rapproché d'une automobile venait de lui faire redresser la tête. Un cri rauque lui échappa. « Favreau !» Sur le siège d'une luxueuse 40 HP, au volant à 50 mètres de lui, le vieux Kerjean venait de reconnaître son ennemi. Alors, affolé de la haine la plus terrible qu'il eût jamais, ulcéré un cœur, il s'élança vers la voiture, en clamant les bras tendus en avant. « Canaille ! Canaille !» Le malheureux, happé par une des ailes du véhicule, tomba sous les roues, tandis que le banquier, qui n'avait même pas appuyé sur la pédale de frein, continuait son chemin, sans s'inquiéter le moindrement de celui qu'il venait d'écraser et qu'il laissait sur la route blanche, déserte et bientôt tachée d'une mare de sang. Presque aussitôt, le vieux Kerjean rouvrit les paupières. Il eut encore la force de se soulever et d'apercevoir au loin, dans un nuage de poussière, l'auto qui emportait son bourreau, son assassin. Le regard vitreux, la bouche tordue en un spasme suprême, il retomba en arrière, le visage tourné vers le ciel et râlant en un cri d'agonie. « Dieu te punira ! Dieu te punira !» Chapitre 2. Le message mystérieux. Dans son merveilleux cabinet de travail du plus pur empire qui occupait le rez-de-chaussée entier de l'aile principale du château des Sablons, le banquier Favreau, toujours matinal, était déjà depuis plus d'une heure au travail lorsqu'on frappa discrètement à la grande porte à deux battants qui donnait dans l'antichambre. « Entrez !» fit le banquier sur un ton de légère impatience. Mais aussitôt, son visage s'éclaira. La jolie femme brune avec laquelle il causait si intimement la veille s'avançait, tenant à la main un adorable garçonnet de 5 ans, véritable ange blond, que l'on eût dit échappé d'une fresque du Dominicain ou d'Andrea del Sarto. L'enfant, tout de suite, se précipita vers le financier et, sautant familièrement sur ses genoux, il s'écria « Bonjour, mon papa !»« Bonjour, Jeannot !» répondit Favreau, qui, après avoir embrassé le petit, le posa à terre, tandis que ses yeux, brûlants de désir, cherchaient ceux de l'institutrice. Tandis que le bambin se précipitait vers une des larges fenêtres qui donnaient sur le parc, Favreau, avec l'accent de la passion la plus intense, murmura à la jeune femme, qui semblait fort troublée, « Marie, oh, comme je vous aime, monsieur, je vous adore et je veux, oui, je veux que vous soyez à moi, à votre maîtresse jamais. Et ma femme ?» « Oh, monsieur Favreau !»« Aussitôt après le mariage de ma fille, » murmurait le banquier. Mais une voix féminine demandait doucement de l'autre côté de la porte, « Puis-je entrer, père ?»« Mais oui, maman chérie !» répliqua spontanément le bambin en quittant la fenêtre. Une jeune femme, radieusement jolie, au regard très doux mais un peu triste, apparut sur le seuil dans un saillant costume d'Amazone qui faisait valoir ses lignes toutes de grâces harmonieuses et de frêles souplesses. « Bonjour, Jacqueline, » lança froidement Favreau. « Bonjour, père, » répondit la fille du banquier en s'avançant vers lui et en l'embrassant avec une visible expression de craintive déférence. « Tu montes à cheval ce matin ?» interrogea Favreau. « Oui, » répliqua Jacqueline. « Je m'en vais faire un tour en forêt avec M. de La Rochefontaine. » À ce nom, le petit Jean, qui s'était emparé de la main de sa mère, interrogea naïvement. « Dis, maman, c'est vrai que je m'en vais avoir un nouveau papa ?»« Mais oui, » répondit la jeune femme en rougissant légèrement. « Comment faudra-t-il que je l'appelle ?»« Père ?» Est-ce qu'il est aussi riche que bon papa Favreau ? Jacqueline doucement grondait. Mon chéri, ce sont des questions que ne doivent jamais poser les enfants bien élevés. Allons, va, mon petit, va prendre ta leçon avec Mademoiselle Verdier, et tâche surtout d'être bien sage et bien obéissant. Oui, maman, je te le promets. L'enfant s'en fut avec son institutrice, tandis que Jacqueline soupirait tout en le regardant s'éloigner, avec cette expression de tendresse divine et d'orgueil souriant qui n'appartient qu'aux mères. « Cher petit ange, comme j'aurais voulu me garder tout à toi !»« Allons bon !» sursauta Favreau avec nervosité. « Te voilà encore avec tes idées ridicules !»«
Non, père, vous m'avez mal comprise. Laissez-moi vous expliquer. »
« Je ne sais pas ce que tu dis. Tu es stupide, ma fille, stupide !»
À cette phrase, lancée brutalement, Jacqueline avait baissé le front, tandis que la tristesse grandissait sur son visage. C'est qu'au milieu de tout le luxe qui l'entourait, Jacqueline n'avait jamais été heureuse. D'abord, elle avait perdu très tôt sa mère, personne timide, effacée, que Favreau avait épousé aux heures difficiles et qui était morte écrasée par la fortune comme d'autres sont vaincus par la misère. Puis, au sortir du couvent, son père, qui dans son égoïsme féroce avait froidement résolu de se servir de sa fille comme d'un nouvel instrument de fortune, la mariait à un jeune ingénieur, Jacques Aubry, dépourvu de tout argent, mais dénué de tout scrupule et doué du véritable génie des affaires. Favreau, qui l'avait discerné entre tous, comptait en faire mieux que son associé, c'est-à-dire son complice. Mais au bout d'un an, Aubry périt dans un accident d'automobile au cours d'un voyage d'études en Amérique pour le compte de son beau-père. Jacqueline, désireuse d'échapper à une tutelle dont elle avait déjà senti toute l'amertume, résolue de se consacrer entièrement à son enfant. Et pendant plusieurs années, le banquier, absorbé en de nouvelles et formidables besognes, ne parut pas disposé à contrecarrer le désir de Jacqueline. Mais un jour, ayant senti la nécessité de pénétrer dans le monde aristocratique, qui jusqu'alors lui était impitoyablement fermé, il attira fort habilement chez lui un jeune gentilhomme, royalement fauché, mais en possession de toutes les relations dont le marchand d'or avait besoin pour grandir encore sa clientèle. En quelques semaines, avec le despotisme d'un tyran devant lequel tout s'incline, Favreau bâcla ce mariage, imposant ainsi une seconde fois sa volonté à la pauvre jeune femme. Et celle-ci, comme la première fois, courba le front devant cette autorité de fer qui lui était toujours apparue comme une force de la nature. Maintenant, en face de ce père qui n'avait jamais été pour elle qu'un tyran, elle s'effrayait déjà de lui avoir laissé entrevoir un peu du secret douloureux de son cœur. et elle allait s'en excuser dans toute la timidité de son âme fragile et douce, lorsque le sifflet d'un tube acoustique retentit. Ah, voici mon secrétaire, dit Favreau à sa fille. C'est l'heure du courrier. Laisse-nous et va faire ta promenade. Va et tâche d'être un peu plus gai ce matin au déjeuner. Au revoir, père. Au revoir. Jacqueline se retira toute dolente, mais soumise et résignée. Comme elle passait devant Vallière, qui venait d'apparaître et s'effaçait respectueusement devant elle, le banquier lui lança « Mes amitiés au marquis !» Une fois seul avec son secrétaire, il fit en baissant la voix « Et cette affaire du cheminot, vous en êtes-vous occupé ?»« Oh oui, monsieur. »« Ah, eh bien !» Vallière, d'un ton posé, expliqua « J'ai acquis la certitude que personne ne vous soupçonnait d'être l'auteur involontaire de ce regrettable accident. Ah, je préfère cela. Quant à Kerjean, quelque temps après votre passage, il a été relevé par des paysans qui l'ont transporté dans une charrette à Mantes à la clinique du docteur Gorlet. Il n'a rien dit, au moins. Oh non, monsieur, il ne dira rien. Il est mort. Cette nuit, il est entré dans le coma sans avoir repris connaissance. Et tout à l'heure, quand j'ai quitté la clinique, il ne donnait plus signe de vie. Ah, alors, tout va bien. Et désignant le volumineux courrier qu'un valet de pied apportait sur un plateau d'argent, Favreau s'écria « Bon, maintenant, occupons-nous de choses un peu plus intéressantes. » Tandis que le domestique se retirait, le banquier, s'emparant d'un coupe-papier, commençait à dépouiller sa correspondance lorsque son attention fut attirée par une grande enveloppe jaune sur laquelle une adresse était tracée d'une écriture bizarre au caractère gothique et tourmenté. Au banquier Favreau, château des Sablons, près Mantes, Seine-et-Oise, urgente, personnelle. Le père de Jacqueline, quelque peu intrigué, décacheta aussitôt l'enveloppe et lut à haute voix. Non content de ruiner et de déshonorer les gens, il faut encore que vous les assassiniez. Je vous donne l'ordre, pour expliquer vos crimes, pour expier vos crimes, de verser la moitié de votre fortune à l'assistance publique. Vous avez jusqu'à demain soir, 10 heures, pour vous exécuter. Le mystérieux message était signé d'un seul nom, tracé en grosses lettres rouges, et suivi d'un point d'exclamation qui ressemblait à une larme de sang. Judex. Judex, Judex, répéta Favreau tout surpris. Ben, c'est un mot latin qui signifie justicier, traduisit le secrétaire. Oui, je sais. Et le banquier, d'un air qu'il voulait rendre méprisant, grommela entre ses dents. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Chapitre 3. Le marchand d'or. Maurice Ernest Favreau était d'un de ces caractères qui, soit qu'ils choisissent le bien, soit qu'ils optent pour le mal, deviennent fatalement un très grand homme ou une immense fripouille. Favreau avait choisi la seconde route, uniquement parce qu'elle devait lui permettre d'atteindre plus facilement et plus rapidement le but vers lequel le portaient ses appétits effrénés. Il y avait marché à pas de géant. Fils de modeste négociant du Havre, qui s'était saigné aux quatre membres pour lui donner une instruction solide et complétée par plusieurs séjours à l'étranger, il se dit qu'il n'y avait plus guère qu'à la bourse que l'on peut faire une fortune rapide et brillante. À 18 ans, petit employé dans un établissement de crédit, à 25 ans, commis principal chez un agent de change, à 30, grâce à l'apport de capitaux importants dont la source était toujours demeurée mystérieuse, il fondait, boulevard Haussmann, la Banque moderne de l'industrie et du commerce, qui, sous son impulsion vigoureuse, ne tarda pas à prospérer de la façon la plus éclatante. D'une audace inouïe, d'une souplesse extraordinaire, doué d'une formidable puissance de travail et d'une force de persuasion incomparable, le marchand d'or avait toujours été assez habile, tout en manœuvrant sans cesse en marge du code pour ne pas se mettre en défaut contre la loi. Écrasant impitoyablement ce qui le gênait, sacrifiant sans vergogne tous ses complices devenus compromettants ou inutiles, sachant acheter sans marchandage les concours précieux et les sites indispensables, Favreau n'avait pas tardé à se créer dans le marché mondial une situation financièrement et moralement inexpugnable. Et c'était en plein triomphe, à la veille de la véritable apothéose qu'était pour lui le mariage de sa fille avec le marquis de La Rochefontaine, que venait le surprendre le message mystérieux de Judex. « Oui, mais qu'est-ce que cela veut dire ? » répéta-t-il. « Est-ce que par hasard, cette étrange missive aurait quelque rapport avec mon aventure d'hier ?» « Pourtant, personne n'est au courant. Et vous venez de me dire vous-même, mon cher Vallière, que le vieux Kerjean n'avait pas pu parler. Me reste Martial, mon chauffeur. Bon, mais je suis sûr de lui. Il m'est très dévoué, il tient beaucoup à sa place. En tout cas, s'il voulait me faire chanter, ce garçon qui sait à peine lire et écrire n'irait pas choisir ce pseudonyme latin de Judex. « Évidemment, » approuvait le secrétaire. « Par conséquent, » concluait Favreau, « ce n'est qu'une mauvaise plaisanterie à laquelle j'aurais bien tort de m'arrêter. » Puis il ricana. « Fichtre, il va bien, ce cher monsieur Judex. La moitié de ma fortune à l'assistance publique. Dites-moi, Vallière, vous qui êtes au courant de la plupart de mes affaires, vous ne soupçonnez pas qui pourrait bien être l'auteur de cette mystification ?»« Ma foi, non, » déclara le secrétaire. « C'est bizarre tout de même. »« Allons, » s'écria le banquier en affectant un calme parfait. « Voilà bien du temps perdu pour des bêtises. Allez, au travail !» Avec une grande tranquillité apparente, Fabreau reprit le dépouillement de son courrier, dictant les réponses à son secrétaire d'une voix toujours impérieuse, mais où, par instant, il y avait un peu de tremblement, indice d'une sourde et vague inquiétude. Quand il eut terminé, tandis que Vallière se retirait dans son bureau pour rédiger les réponses, le marchand d'or, devenu tout à coup inquiet et nerveux, laissa échapper d'une voix angoissée: « Oh, c'est égal, je donnerais bien 10 000 francs pour savoir ce que c'est que ce Judex. » Quelle n'avait pas été la joie et l'orgueil de M. Coquentin, le récent héritier et successeur de M. Ribaudet, directeur de l'agence Celeritas, 135 rue Milton, en voyant entrer dans son bureau M. Favreau, l'un des rois de la finance européenne. Mais bien plus grande encore fut sa surprise lorsque le banquier, sur un ton bref, hautain, qui le caractérisait, lui déclara « Monsieur, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de demander à votre prédécesseur certains renseignements confidentiels. J'ai toujours été très satisfait de ses services. J'espère qu'il en sera de même avec vous. » Et, tendant au détective privé le message de Judex, Favreau ajouta « Je viens de recevoir cette lettre. J'ai la conviction qu'elle est l'œuvre d'un mauvais plaisant. Mais, comme je n'aime pas que l'on se moque de moi, je vous prie de faire l'impossible pour en démasquer promptement le signataire, car je tiens à lui prouver qu'on ne s'attaque pas impunément à un homme de mon envergure. » « Cher monsieur, » répliqua Coquentin, ravi de l'aubaine, « veuillez me confier ce papier. » Et avec l'ardeur d'un débutant, il déclara d'un air de confiance présomptueuse « Oh, je me fais fort, avant 24 heures, d'établir l'identité de votre mystérieux correspondant. Je vous remercie. Où devrais-je, monsieur, vous faire parvenir le résultat de mon enquête ?»« Demain, je ne quitterai pas mon château des Sablons, où je donne le soir un grand dîner. Peut-être pourrez-vous me téléphoner ?» Oh, pas de téléphone, monsieur, je vous en prie. Si la prudence est la mère de la sûreté, le téléphone est l'ennemi de la police. Je viendrai donc vous apporter moi-même le fruit de mes recherches. Bon, c'est entendu. Lorsque le lendemain, à 2 heures précises, le directeur de l'agence Celeritas arriva au château des Sablons, il fut immédiatement introduit dans le cabinet du banquier. Celui-ci l'attendait avec une certaine impatience. En effet, depuis qu'il avait reçu cette lettre signée Judex, bien qu'il s'efforçât de réagir avec son énergie habituelle, Favreau ne cessait de sentir grandir en son esprit la sourde et instinctive inquiétude qui s'était emparée de lui aussitôt que son regard s'était arrêté sur l'enveloppe. Bien des fois, il avait reçu des missives anonymes contenant de pareilles menaces. Et toujours, en haussant les épaules, il les avait jetées au panier, sans y prêter la moindre attention. Et pourquoi celle-ci lui causait-elle une impression aussi désagréable? Pourquoi, involontairement, tremblait-il chaque fois que ses doigts rencontraient l'étrange papier? Pourquoi, rien que ce mot « judex », suffisait-il à le plonger dans un trouble tel qu'il n'en avait jamais ressenti? Le banquier avait beau faire appel à toute sa raison, analyser les sensations qui l'agitaient, interroger sa mémoire, qu'il avait prodigieuse, il n'obtenait de lui-même aucune explication plausible, aucune réponse satisfaite. Et malgré tous ses efforts pour se dégager de cette hantise pénible, de cette obsession qui finissait par devenir douloureuse, il se sentait de plus en plus gagné, envahi par une sorte de mystère, inexplicable autant qu'inattendu. Mais à chaque instant, sans qu'il le voulût, il se surprenait en train de murmurer « Judex, Judex, mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Il avait l'impression qu'un poids très lourd pesait sur ses épaules et qu'il en serait ainsi tant qu'il n'aurait pas déchiffré cette énigme. Aussi, lorsqu'il vit apparaître Coquentin, une lueur d'espoir brilla en ses yeux. Et ce fut avec un accent de cordialité sympathique qu'il interrogea. « Eh bien, monsieur Coquentin, avez-vous quelque chose de nouveau à me raconter ?» Le détective privé, qui n'avait pas découvert le plus petit indice capable de le mettre sur le chemin de la vérité, se crut cependant obligé de bluffer. « Oh, vous pouvez être tranquille, cher monsieur, absolument tranquille. Dans 24 heures, et même avant, j'aurai certainement démasqué ce judex. » Mais un valet de pied apportait le courrier de l'après-midi. Et le détective se préparait à se retirer, lorsqu'il vit le banquier, visiblement troublé, se dresser d'un seul mouvement et ordonner d'un accent impératif à son domestique qui se retirait. « Qu'on me laisse seul avec monsieur et que personne ne me dérange. » Coquentin venait de constater que Favreau tenait dans ses mains une grande enveloppe jaune semblable à celle qui contenait le premier message de Judex. Le banquier le décacheta nerveusement. Puis il lut, scandant chaque mot, chaque syllabe, « Si ce soir, avant 10 heures, vous n'avez pas versé à l'assistance publique la moitié de votre fortune mal acquise, ensuite il sera trop tard. Vous serez impitoyablement châtié. Judex !» Point d'exclamation. Coquentin crut devoir souligner en un sourire gouailleur. « Ah, la plaisanterie continue !» Mais moi, gronda le banquier en fronçant les sourcils, je trouve qu'elle a suffisamment duré.
Ne vous fâchez pas, monsieur Favreau, supplia Coquentin. Le coupable est peut-être plus près d'ici que nous le pensons. Je vais me livrer tout de suite à une inspection très sérieuse de votre maison et de ses alentours. Oh, je ne doute pas un seul instant que ce sinistre farceur ne tombe bientôt en mon pouvoir.
Coquentin, qui avait placé la seconde missive de Judex dans son portefeuille, à côté de la première, s'écria, en regardant d'un air protecteur le grand financier dont les yeux brillaient d'une flamme sombre, « Rassurez-vous, monsieur, je veille !» Demeuré seul, le banquier se laissa tomber sur son fauteuil comme s'il eût été frappé d'un mal soudain ou saisi d'une profonde épouvante. C'est que, depuis un moment, il voyait devant ses yeux, et sans pouvoir s'en débarrasser, l'énigmatique signature, les lettres rouges, le mot terrible, « Judex, Judex », que suivait le point d'exclamation sanglant et s'y ressemblant à une étrange et lancinante menace. Le financier évoquait toutes les ruines qu'il avait accumulées autour de lui, tous les désastres qui avaient marqué chacune de ses ascensions vers la fortune et tous les cadavres qu'il avait laissé sur son chemin. En proie à une terreur irrésistible, il se sentait envahi par l'intuitif pressentiment qu'il ne s'agissait plus, ainsi qu'il l'avait cru d'abord, d'une de ces farces stupides comme en inventent les envieux ou les mauvais plaisants, mais d'un danger terrible qui l'enveloppait peu à peu d'une atmosphère de mystère et de mort. Et cette question angoissante, terrible, se posa à son esprit. Si c'était vrai, et si réellement parmi mes victimes, l'une d'elles se relevait, furieusement, implacablement révoltée, et me déclarait dans l'ombre une guerre atroce et sans merci. La moitié de ma fortune, songeait Favreau, dans le désespoir zarois de tout son être. La moitié de ma fortune. Mais si je cède, je suis perdu. Tout le reste y passera. Non, 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 c'est impossible, je ne veux pas. Et pourtant. Alors il eut l'impression affreuse qu'une main invisible serrait à la gorge, cherchant à l'étouffer, à l'étrangler. Un cri rauque lui échappa. « Marie !» L'image de la jeune institutrice, aux yeux noirs, d'un noir d'enfer, venait de lui apparaître en une vision de volupté indicible. À la pensée de la femme tant désirée, il se ressaisit. « Oh, céder à une pareille injonction, se dit-il, ce serait une lâcheté, une folie. Si vraiment cet ennemi existe, mieux vaut l'attendre de pied ferme, accepter le défi, engager la bataille. » Galvanisé par sa passion pour Marie Verdier, bravé de toutes ses luttes passées, audacieux de tous les crimes impunis, conscient de la force indomptable que lui donnait à la fois sa puissance acquise et sa volonté victorieuse, il s'écria « Oh, maintenant, je ne te crains plus et j'accepte la lutte. Eh bien, à nous deux, Judex. Qui que tu sois, nous verrons bien si tu es de taille à m'abattre. » Chapitre 4. Et lorsque 10 heures sonnèrent. Les salons du château des Sablons, ornés à profusion des fleurs les plus belles, tout étincelant de lumière et d'or, regorgeait de l'élégante cohue que le marchand d'or avait cru devoir inviter aux fiançailles de sa fille. Amaury de la Rochefontaine, superbe, magnifique et rayonnant de bonheur, ne quittait pas sa fiancée. Jacqueline, qui ne songeait qu'à son fils adoré, écoutait d'une oreille distraite les paroles toutes de tendresse enveloppante que lui prodiguait le beau marquis. Quant au banquier, il allait d'un groupe à l'autre, recevant les félicitations de ses invités, plastronnant en suivant son habitude, lançant de temps en temps un coup d'œil rapide vers Mademoiselle Verdier, à laquelle il avait dû faire doucement violence pour qu'elle assistât au dîner. La jeune institutrice se tenait modestement à l'écart, comme si elle s'effrayait de se trouver au milieu d'un monde trop brillant pour elle. Favreau semblait avoir complètement oublié les menaces de Judex, lorsque Coquentin, qui, impeccable dans son frac de soirée, s'était mêlé aux invités, s'approcha du banquier. Prenant un air solennel, il lui murmura à l'oreille, sur un ton d'énigmatique importance, « Tout va bien !» La vérité était que le détective avait en vain fouillé le château de la cave au grenier, exploré les communs et les dépendances, sondé les buissons les plus épais du parc. Il n'avait absolument rien trouvé, sauf Favreau qui, à l'abri d'un épais berceau de verdure, échangeait avec Mademoiselle Marie les plus tendres propos. Coquentin n'eut d'ailleurs pas le temps de bluffer davantage. Une porte s'ouvrait à deux battants, laissant apercevoir un majestueux maître d'hôtel, qui lança d'une voix sonore « Monsieur est servi !» Les convives pénétrèrent dans la superbe salle à manger du château, où ils attendaient une table merveilleusement décorée. Dans cette atmosphère, toute de plaisir et de bonne chère, promptement la conversation devint brillante, animée. Par instant, un éclat de rire féminin, sonore comme un choc de cristal, dominait le ronronnement actif des bavardages emmêlés. Compliments, potins, critiques, médisances allaient leur trait habituel. Dans un salon voisin, un orchestre égrenait en sourdine tout un chapelet de valses lentes, lorsque Favreau se leva, la coupe à la main, pour porter le toast d'usage. La pendule monumentale, fixée à l'un des panneaux de la salle, marquait exactement 10h-2 minutes. Le silence s'établit non sans peine. Puis, d'une voix quelque peu altérée et dont les circonstances expliquaient l'émotion, Favreau commença. « Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous proposer la santé de ma fille, Mademoiselle Jacqueline Aubry et du marquis d'Ambory de la Rochefontaine. » Un murmure approbateur circula dans l'assemblée. Favreau continuait. « C'est avec une joie, d'autant plus grande qu'elle se manifeste au milieu de vieux amis, que je vous exprime, mon cher Amaury, ainsi qu'à toi, ma chère enfant, tous les vœux de bonheur que je forme. » Soudain, le banquier s'arrêta, comme si la parole lui manquait. C'est qu'instinctivement, ses yeux venaient de se porter vers l'horloge et de constater que les aiguilles touchaient presque à l'heure fatidique annoncée par Judex. Alors le père de Jacqueline se rappela l'effroyable menace. Une angoisse indicible le secoua d'un frisson mortel. Toute son énergie, toute son audace l'abandonnèrent en une seconde, car il se dit de nouveau: et si c'était vrai? Et si en ce moment même, la main de ce justicier inconnu allait s'apesantir sur moi? Cependant, il luttait encore. Avec une force contrainte, d'un ton nerveux saccadé, il voulut reprendre, s'adressant au jeune marié. « Oui, tous les vœux que je forme pour votre bonheur !» Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Une sueur froide apparut à ses tempes, un tremblement convulsif agita ses mains. Pour dissimuler son trouble, il porta à ses lèvres la coupe de champagne qu'il vida d'un trait. 10 heures sonnaient à l'horloge. Alors le visage de Favreau se contracta en une convulsion hideuse. Sa coupe lui échappant des mains se brisa sur la table. Par 3 fois, il battit l'air de ses bras affolés, et tandis qu'un râle effrayant s'échappait de sa gorge, il s'effondra abattu, foudroyé. Judex avait tenu parole. En un tumulte indescriptible, on se précipita au secours de Favreau, qui ne donne plus signe d'existence. On le transporte au salon, on l'étend sur un canapé. Malgré tous les soins qui lui sont prodigués, on ne peut le rappeler à la vie. Un médecin, ami de la famille qui assiste au dîner, constate que le financier a succombé à une embolie. Jacqueline, que son fiancé ainsi que Vallière ont en vain essayé d'arracher à ce triste spectacle, Jacqueline est obligée de se rendre à l'horrible évidence, s'écroule à genoux, sanglotante éperdument auprès du corps de son père, tandis que Marie Verdier, l'institutrice du petit Jean, d'un regard où se lit à la fois l'amertume et l'épouvante, contemple, dissimulé derrière une tenture, le cadavre du marchand d'or, dont le faciès conserve dans la mort une atroce rictus de mystérieuse terreur, de surhumaine épouvante. Chapitre 5. Jacqueline. Coquentin, qui s'était empressé de quitter le château en emportant les deux lettres de Judex, était rentré chez lui littéralement affolé. Pour mes débuts, se disait-il, en voilà une histoire. Que dire, que faire, je ne sais plus, moi. C'est effrayant, j'en suis malade. Le fait qu'il y avait de quoi bouleverser un homme qui, 3 semaines auparavant, menait une vie des plus joyeuses en même temps que des plus banales, et que rien d'ailleurs ne prédisposait au métier de détective. En effet, jusqu'à l'âge de 40 ans, Coquentin avait vécu d'une rente à ses rondelettes que lui faisait son oncle, le sieur Ribaudet, fondateur-directeur de l'agence Celeritas. Il avait partagé son existence entre deux passions, les femmes et Napoléon. Il va de soi que la première lui avait coûté infiniment plus cher que la seconde. L'héritage Ribaudet était venu fort à propos pour le tirer d'embarras. Mais l'oncle, ayant exigé par testament que son neveu lui succédât effectivement dans ses fonctions, Prosper Coquentin avait été forcé, presque à son corps défendant, de prendre du jour au lendemain la direction de l'agence. Et voilà que pour sa première affaire, il tombait sur le drame le plus déconcertant et le plus redoutable que l'on pût imaginer. « Si j'allais, se disait-il, raconter tout à la police, à la grande, à la vraie, à la seule qui devrait exister. » Mais au moment de sortir, il se ravisa. Ben voyez-vous qu'à la préfecture, on me prenne pour le complice de Judex, ou pour Judex lui-même? Bon, le mieux pour moi est de garder le silence sur cette ténébreuse affaire. Bon, c'est dit, je me tairai. Il crut avoir retrouvé le calme et la paix. Mais pas du tout. Pendant 2 jours, il lutta contre la hantise de Judex. Pendant 2 nuits, il ne cessa d'être en proie aux cauchemars les plus terrifiants. Afin d'échapper à cette obsession, Coquentin se préparait à déchirer en tout petits morceaux les deux lettres auxquelles il commençait à trouver une sorte de parfum diabolique, lorsqu'il songea. Mais Favreau avait une fille. Ai-je le droit de la laisser dans l'ignorance des circonstances si troublantes qui ont précédé la mort de son père? Fort perplexe, car c'était un très honnête garçon, il continuait à contempler les deux messages lorsqu'il releva la tête. Lentement, son regard se dirigea vers le buste de Napoléon placé sur le haut d'un cartonnier, et le détective, malgré lui, se demanda « Qu'eût-il fait à ma place, lui ?» La réponse ne se fit pas longtemps attendre. Coquentin venait d'avoir l'impression que la voix du maître vibrait à ses oreilles et lui lançant impérieusement cet ordre, mais prévient la famille. Le directeur de l'agence Celeritas n'avait plus qu'à obéir. Quelques heures après, il arrivait au château des Sablons et faisait prier Madame Aubry de bien vouloir lui accorder un entretien confidentiel au sujet d'une affaire très grave et très urgente. Bien que Jacqueline, qui venait d'assister à l'enterrement de son père, fût toute brisée de chagrin et d'émotion, elle consentit à recevoir le détective, qui, après s'être incliné respectueusement devant elle, attaqua. « Madame, je vous demande pardon de venir vous troubler dans votre peine, mais en possession d'un secret de famille qui vous intéresse tout particulièrement, j'ai compris que je n'avais pas le droit de garder le silence. » Puis, avec la plus complète franchise, le successeur de Ribaudet raconta à Madame Aubry la démarche que le banquier avait faite à son agence, ainsi que tous les événements qu'il avait précédés et suivis. Et lui remettant les deux lettres de Judex à l'appui de ses dires, il conclut, satisfait de lui et la conscience en repos, « Maintenant, madame, que j'ai fait tout mon devoir, il ne me reste plus qu'à vous adresser, avec tous mes regrets, l'hommage de mon profond respect. » Jacqueline, qui avait lu les deux messages, s'écria avec l'accent de l'indignation la plus vive, « Mais ces lettres sont de la famille et préludent sans doute à quelque chantage. »« Madame, » protesta Coquentin avec l'accent de la plus vive sincérité, « je vous jure que je suis tout à fait incapable. » « Monsieur, » interrompit la fille du banquier, « je ne vous accuse nullement. Je vous remercie au contraire de votre si parfaite loyauté. Mais vous comprendrez que je sois bouleversé à la pensée que la mémoire de mon père puisse être un instant suspectée. Aussi, je tiens avant tout à éclaircir cette affaire. » « Oui, vous avez raison, madame. Et si j'ai besoin de vos services ?»« Oh, vous pourrez entièrement compter sur moi. » promit le directeur de l'agence Celeritas, qui se retira après avoir salué Madame Aubry jusqu'à terre. Demeurée seule, Jacqueline relut d'abord le premier sommation. Non content de ruiner, de déshonorer les gens, il faut encore que vous les assassiniez. Je vous donne l'ordre, pour expier vos crimes, de verser la moitié de votre fortune à l'assistance publique. Vous avez jusqu'à demain soir 10 heures pour vous exécuter. » Puis ce fut l'autre, véritable glas d'avertissement suprême. « Si avant 10 heures vous n'avez pas versé à l'assistance publique la moitié de votre fortune mal acquise, ensuite il sera trop tard, vous serez impitoyablement châtié. Judex. » Et la jeune femme, envahie par une terreur indicible, songeait que c'était précisément lorsque 10 heures sonnaient à l'horloge de la salle à manger que le banquier était tombé foudroyé. « Plus de doute, » s'écria-t-elle en un sanglot déchirant, « mon père a été victime d'un complot tramé dans l'ombre. Mon père a été assassiné. » Jacqueline, qui jusqu'à ce jour n'avait jamais soupçonné l'intégrité du financier, traitant, comme tant d'autres, de mensonges odieux et de calomnies stupides les rares et vagues accusations qu'elle avait entendues çà et là porter contre lui, se demanda avec un sentiment de sourde terreur si ces rumeurs ne reposaient pas sur un fond de vérité. Et aussitôt elle se révolta contre elle-même. « Mon père, un voleur, un assassin ?» Oh, certes, il aimait l'argent. Il était âpre au gain et impitoyable envers ceux qui se jetaient en travers de ses projets. Mais de là à commettre des crimes aussi épouvantables. Non, non, mais c'est impossible. Père, père chéri, pardonne-moi d'avoir pu effleurer ta mémoire d'un pareil soupçon. Tout en s'efforçant de redevenir maîtresse d'elle-même, Jacqueline sonna un domestique. « Bon temps, » interrogea-t-elle. « Monsieur le marquis de La Rochefontaine a-t-il quitté le château ?»«
Oui, madame, il est parti pour Paris en auto il y a environ un quart d'heure. »
« Alors, dites à monsieur Lavallière que je désire lui parler. » Quelques instants après, le secrétaire de Favreau se présentait devant Jacqueline. Pâle, silencieuse, la fille du banquier le considéra d'un de ses longs et profonds regards qui expriment « Êtes-vous vraiment son ami ?» L'expression de bonté sincère et même attendrie qui se lisait sur les traits de Vallière la rassura aussitôt, car tout de suite elle fit sur un ton plein d'énergie. « Monsieur Vallière, mon père avait pour vous beaucoup d'estime, et la veille de sa mort, il me disait encore combien il était reconnaissant à son ami William Simpson de New York, de vous avoir adressé à lui. » Comme Vallière s'inclinait d'un air grave, ému, Jacqueline continua. « Je sais donc que l'on peut avoir entièrement confiance en vous. » Et lui tendant les deux lettres de Judex, elle ajouta. « Voici ce qu'un agent d'affaires vient de m'apporter. Lisez. »« Oh, monsieur Favreau m'avait mis au courant, » répliqua le secrétaire, en reconnaissant les deux messages. « Ah, vous saviez ?»«
Oui, madame, et je dois ajouter que monsieur votre père m'avait prêté à ces lettres qu'une très médiocre importance. »«
Et pourtant, » s'écria Jacqueline, « il a succombé juste à l'heure indiquée par elle. »«
Oui, c'est exact. » »«
Voilà pourquoi je ne puis rester dans une aussi horrible incertitude. » « Je vous demanderai donc de m'accompagner à la préfecture de police. » Vallière, considérant Jacqueline d'un air de douloureuse sympathie, reprenait. « Voulez-vous, madame, me permettre de vous donner un respectueux conseil ?
Je vous en prie.
N'allez pas à la préfecture. »«
Mais pourquoi ?
Ne me forcez pas à préciser. »
« Au contraire, » reprenait Jacqueline, « je veux tout savoir. »«
Contentez-vous de pleurer votre père sans chercher à savoir ce que fut son passé. »«
Son passé ?» fit Jacqueline en un cri de terrible angoisse. « Son passé ?»
« Les accusations contenues dans ces lettres seraient donc vraies ?» Alors pourquoi déjà m'avoir caché l'existence de ces deux messages ?
Oui, pourquoi ces réticences et tout ce mystère ?
Oh, monsieur Vallière, au nom du ciel, parlez !
Madame, hésitait encore le secrétaire, tout tremblant d'émotion.
Ne vous ne voyez donc pas que vous me torturez affreusement ? S'écria Jacqueline en éclatant en sanglots.
Oh, je vous en supplie, dites-moi que mon père est innocent.
Au nom de mon fils, je vous en conjure, affirmez-moi, jurez-moi qu'il n'y a pas un mot de vrai dans cette histoire. »
Tout en inclinant tristement le front, Vallière articula d'une voix dans laquelle il y avait des larmes.
« Hélas, madame, c'est la vérité. »
Chapitre 6. Le dossier révélateur. Jacqueline, fléchissant sous le poids de cette nouvelle douleur, s'était laissé tomber sur un canapé, prêt à s'évanouir.
« Ah, madame !» s'écria Vallière, sur un ton de respectueux reproche. « Mais pourquoi m'avez-vous forcé à vous révéler ces choses ?»
La jeune femme, faisant appel à toute son énergie, répliqua.
« Non, laissez. Je serai forte. Ne vous excusez pas, monsieur Vallière. » Vous avez bien fait, oui, très bien fait de me prévenir. Maintenant achevé, je vous répète que je veux tout connaître. C'est à la fois mon droit et mon devoir.
En ce cas, madame, veuillez me suivre, invita Vallière en offrant son bras à Jacqueline, en la conduisant jusqu'au cabinet de travail du banquier. Tandis que la jeune femme s'asseyait devant le bureau de son père, Vallière s'approcha d'une boiserie sculptée qui ornait un angle de la muraille et fit jouer un ressort secret. Un panneau se déplaça, laissant apparaître une excavation pratiquée dans la muraille. « C'est là, » déclara le secrétaire, « que M. Favreau dissimulait ses documents confidentiels. Il n'y a que très peu de temps qu'il m'avait révélé l'existence de cette cachette, en me faisant lui jurer que s'il venait à disparaître, de brûler tous ses papiers. J'allais le faire, madame, au moment où vous m'avez appelé près de vous. » Jacqueline eut alors le sublime courage de se plonger dans l'étude du dossier volumineux que Vallière avait déposé devant elle et qui contenait la preuve indiscutable que Favreau, par ses manœuvres aussi sournoises que criminelles, avait provoqué le krach de Continental Consortium, la banqueroute de la Rente Universelle, la faillite des phosphates du Delta, l'incendie des docks de New City. Le bilan effroyable se chiffrait par plusieurs milliers de familles ruinées, par de nombreux suicides et enfin par la mort dans les flammes de plus de 100 travailleurs. « Vous saviez tout cela, monsieur Vallière ?» reprenait madame Aubry d'une voix sourde de sanglots. « Comment vous, un honnête homme, avez-vous pu rester le secrétaire de monsieur Favreau ?» À ces mots, une lueur étrange passa dans le regard de Vallière, qui, courbant le front, murmura d'une voix étranglée « Je n'ai pas toujours été un honnête homme. » Prise de vertige en face de l'abîme d'infamie et de honte qu'elle venait d'apercevoir tout à coup, Jacqueline articula simplement « Laissez-moi, monsieur Vallière. » « Madame, exprima le secrétaire, je n'ai pas besoin de vous dire que tout ceci restera enfermé à jamais entre nous. » Et l'air mélancolique d'un homme qui n'a plus rien à espérer sur terre, il se préparait à sortir. Jacqueline le retint. « Monsieur, fit-elle avec une expression de dignité admirable, je souhaite que la franchise un peu tardive dont vous avez fait preuve à mon égard, vous assure le pardon des fautes que vous avez pu commettre. » Vallière s'inclina, deux larmes discrètes, lointaines, apparaissaient au fond de ses yeux, et il sortit plus voûté que de coutume. Alors la fille du banquier put donner libre cours à son désespoir. « Ainsi, se disait-elle, mon père, que j'aimais et que je redoutais, tant il m'apparaissait supérieur aux autres, n'était qu'un misérable qui a causé la ruine de tant de braves gens, la mort de tant d'innocents. Cette fortune qu'il nous a laissée à mon fils et à moi a été acquise dans le sang et dans les larmes. Quelle chose abominable! Il me semble que je vais entendre sans cesse monter à mes oreilles les malédictions et les plaintes des victimes. Oui, déjà il me crie, tout cet or, il n'est pas à toi, ni à ton fils, il est à nous. Ton père nous l'a volé. » Alors un cri déchirant lui échappa. « Mon fils, mon Jean bien-aimé !» C'est qu'une pensée encore plus atroce, une crainte encore plus épouvantable venait de lui broyer le cœur. Judex, Judex, songeait-elle. Mais quel est cet homme assez puissant pour avoir frappé alors fixé par lui, au milieu d'une fête, mon père que rien n'a pu arracher à son destin? Qui sait si, poursuivant sa vengeance, il ne va pas me frapper à mon tour, ainsi que mon enfant. Oh, peu importe, je suis prête à tout. Mais mon petit, pitié pour lui, pitié.
Et une phrase terrible vibra soudain à l'oreille de l'infortuné. Est-ce que ton père, lui, a eu pitié des innocents?
Mon Dieu, sanglota-t-elle éperdue. Mais comment détourner la menace que je devine suspendue sur nos têtes? Comment désarmer Judex?
Tout à coup, le visage de Jacqueline cessa de refléter le désespoir et la terreur.
Et une sorte d'ardeur mystique illumina son regard. Une expression de volonté sublime et surhumaine se répandit sur ses traits, transformant miraculeusement la créature frêle et désemparée en une femme noblement vibrante de tous les courages et de toutes les énergies. Puis, s'emparant des dossiers révélateurs, elle les serra contre sa poitrine et les emporta dans sa chambre en murmurant, sur un ton de résolution farouche, « Je sais maintenant ce qui me reste à faire. »
Chapitre 7. L'argent infâme. Dans sa garçonnière de la rue de Prony, le bel Amaury de la Rochefontaine, à demi étendu sur un divan et tout en fumant une kédive parfumée, se laissait aller aux plus souriantes espérances. Convaincu que la mort du banquier ne faisait que reculer de quelques semaines la date de son mariage, il échafaudait les projets les plus magnifiques. Dans son égoïsme de viveur invétéré, il laissait déjà au second plan, presque dans l'ombre, l'adorable silhouette de Jacqueline, dont il n'avait pas compris un instant le douloureux sacrifice, lorsque la sonnerie du téléphone strida. Nonchalamment, Amaury se leva, et tout en saisissant le récepteur, il lança rudement dans l'appareil « Allô ?» Mais sa voix s'adoucit aussitôt. « Ah, c'est vous, ma chère Jacqueline. Comment va ? Béatrice, oh, je le comprends. Ah, vous désirez que je vienne tout de suite au sablon ? Vous savez bien que je suis et serai toujours à vous. Rien de grave, j'espère. Vous ne pouvez pas me dire cela maintenant. Bon, bien, j'accours. » Raccrochant l'appareil, Amaury, devenu soucieux, se demanda qu'est-ce qui avait pu se passer là-bas ? Jacqueline avait la voix contractée de quelqu'un qui vient d'apprendre une catastrophe. Si son fils était malade, elle me l'eût dit certainement, alors. Pour la première fois depuis la disparition du banquier, une légère inquiétude s'empara du marquis. « Ah ça, se dit-il, est-ce que la petite aurait changé d'avis ?» Reprenant le téléphone, M. de la Rochefontaine demanda à son cercle une auto qui le conduisit directement et rapidement au sablon. Jacqueline l'attendait dans un petit salon. Tout de suite, au visage ravagé de la jeune femme, à l'expression de détresse que révélait toute sa personne, le marquis se dit « il est certainement arrivé un malheur ». Troublé cette fois, il interrogea « Jacqueline, ma chère amie, votre petit Jean, oh, il va très bien », rassura aussitôt la jeune femme, qui résolument attaqua. « Amaury, vous m'aimez, n'est-ce pas ?»« Oh, si je vous aime !» répliqua aussitôt le gentilhomme avec effusion. « La mort de votre pauvre père, en me créant de nouveaux devoirs envers vous, n'a fait que grandir le sentiment déjà si puissant que vous m'avez inspiré. »« Je vous remercie, » reprit Jacqueline. « Maintenant, écoutez-moi. » Et d'une voix ferme, assurée, elle poursuivit. Je viens d'apprendre une chose terrible. Par des preuves, hélas, sans réplique, par des documents terriblement accusateurs que j'ai mis en sûreté dans un lieu que seul je connais. J'ai acquis depuis hier la certitude que mon père avait gagné sa fortune d'une manière illicite. Je devrais même dire d'une façon criminelle. Et ne voulant rien garder d'un argent dont je n'ai hélas
que trop profité jusqu'à ce jour, j'ai décidé d'abandonner à l'assistance publique toute la part qui me revient de l'héritage paternel. Maître Vignereau, mon notaire, accompagné de deux témoins, attend dans le salon que je signe l'acte de donation qu'il a préparé sur mon ordre. Quant à la part de mon fils, je n'ai pas le droit d'en disposer. Mais elle restera déposée entre les mains du notaire qui en assurera la gestion légale. Et lorsque Jean aura atteint sa majorité, je lui mettrai sous les yeux les raisons qui ont provoqué ma décision. J'espère que, dis-je, je suis sûr que, comme moi, il ne voudra pas profiter de l'argent infâme et qu'il le donnera lui aussi aux pauvres. Voilà, mon cher Amaury, tout ce que j'avais à vous dire. En écoutant cette déclaration si noble, si émouvante, qui brisait subitement et irrémédiablement ses espérances, M. de La Rochefontaine avait pâli. Parvenant néanmoins à se dominer, il formula « Oh, je ne puis, ma chère Jacqueline, que m'incliner très bas devant le geste généreux, je devrais dire l'acte sublime que vous vous préparez à accomplir. Cependant, me sera-t-il permis de vous donner un très affectueux conseil ?»« Mais parlez. » Il me semble qu'avant de réaliser une décision aussi grave, vous pourriez peut-être prendre le temps de la réflexion. Somme toute, vous n'êtes en rien responsable des erreurs de votre père, et je trouve injuste que vous vous dépouillez ainsi au profit d'inconnus de la totalité d'une fortune. Mais recueilli dans la boue et dans la honte, interrompit violemment Jacqueline. Oh, monsieur de La Rochefontaine, comment pouvez-vous penser un seul instant que je pourrais conserver la moindre parcelle d'un tel héritage? Oh, je vous en prie, calmez-vous. Me calmer. Ah, je m'attendais de votre part à une autre réponse. Je me figurais que vous alliez me dire « C'est bien ce que vous avez fait là. Je ne puis que vous en aimer davantage. Plus que jamais, je veux être le compagnon de votre vie. Et au lieu de cela, après avoir blêmi de déception et presque tremblé de colère devant ces millions qui vous échappent, vous osez me déconseiller un acte qui fera désormais tout mon orgueil de femme sans tache et de mère sans reproche? Jacqueline, n'insistez pas, monsieur. Je suis fixé sur la sincérité de vos sentiments à mon égard. Et puisque vous n'en voulez qu'à cet or que je repousse, et que, malgré toute l'infamie dont il est entaché, vous eussiez volontiers accepté, moi qui ne vous ai jamais aimé, madame, moi qui ne vous épousais que pour obéir à la volonté d'un père devant lequel j'avais toujours tremblé, ah, c'est avec un sentiment de soulagement profond que je vous rends votre parole et votre liberté. Laissez-moi vous dire, pas un mot, monsieur, je vous en prie. Je vous quitte sans rancune et sans haine. Oh, je vous ai déjà oublié. Jacqueline passa dans le grand salon où l'attendait le notaire. S'approchant de la table où Maître Vigneron avait déposé l'acte de donation en bonne et due forme, la fille du banquier, dont le visage reflétait l'ardeur du sacrifice librement accepté et grandiosement accompli, signa d'une main qui ne tremblait pas l'abandon au pauvre de toute sa fortune. Quelques instants après, le bel Amaury, fou de colère, quittait le château. Chapitre 8. Vers l'inconnu. Jacqueline avait résolu d'abandonner sans délai les Sablons. Aussitôt le notaire parti, elle rassembla tous ses domestiques. Prétextant un revers de fortune inattendu, elle les congédia, non sans avoir gratifié chacun d'eux d'un souvenir particulier et d'affectueuses paroles. Puis elle reçut Vallière, qui lui renouvela ses protestations de dévouement sincère et de discrétion absolue, et se retira visiblement émue. Elle fit ensuite ses adieux à Mademoiselle Marie Verdier, dont elle était à 100 lieues de soupçonner l'intrigue avec son père, et elle lui exprima avec beaucoup d'affabilité tous ses regrets d'être obligée de se séparer d'elle. L'institutrice, qui s'était composée une attitude de tristesse simple et sans excès, ne sut prononcer que quelques paroles toutes de convenable banalité. Mais lorsqu'elle franchit le seuil du salon, une expression de menace, de rancœur, se répandit sur ses traits. L'instant le plus douloureux était venu pour Jacqueline. Ayant appelé près d'elle le vieux valet de pied Bontemps et sa fille Marianne, qui avait été la nourrice du petit Jean, elle leur dit avec l'accent de la plus touchante simplicité « Mon cher Bontemps, vous m'avez dit que vous comptiez vous retirer avec votre fille à la campagne, aux environs de Paris, dans une petite maison que vous avez achetée avec vos économies. « Oui, madame. Eh bien, je suis ruiné, complètement ruiné. Il ne me reste plus rien. Je vais être obligé de travailler. « Est-ce possible ? Oh, cela ne m'effraie pas, au contraire. Mais comme je ne pourrai plus m'occuper de mon fils, je viens vous demander de le prendre avec vous. Oui, c'est un rude sacrifice que je m'impose. Me séparer de ce petit être que j'adore par-dessus tout. C'est affreux, voyez-vous, mais il le faut. Écoutez-moi, Bontemps, et vous aussi, Marianne. Je veux que mon fils soit avant tout un honnête homme. Je sais qu'il ne peut pas tomber en de meilleures mains que les vôtres. Voilà pourquoi je vous le confie, et je vous remercie d'avance de ce que vous ferez pour lui. « Croyez, madame, affirmait le vieux Bontemps, que nous sommes très touchés. « Oh oui, alors, déclarait Marianne, tout près de pleurer. Vous acceptez ? Oh, de grand cœur, fit Bontemps, et comptez sur nous. Nous l'aimons tant, ce cher petit, il est si doux, si bon et si beau. » Jacqueline, qui sentait son cœur se briser, ajouta « Emmenez-le dès ce soir. Cela vaudra mieux. Dès que j'aurai trouvé un logement, je vous enverrai mon adresse. Oh, j'irai voir souvent mon chéri. Et puis vous me l'amènerez aussi, n'est-ce pas ? Oh oui, madame, sanglotait Marianne, gagnée par le chagrin de sa maîtresse. Courageuse jusqu'au bout, Jacqueline achevait. Maître Villon vous fera parvenir régulièrement la pension du cher petit. Alors embrassez-moi, Marianne, et vous aussi, mon cher Bontemps. Vous, au moins, vous êtes de vrais amis. » Puis, appelant son fils qui jouait dans une pièce voisine, Jacqueline le prit sur ses genoux, et, dissimulant l'atroce douleur qui la déchirait, elle fit « Mon mignon, je vais être obligé de partir en voyage. » « Tu m'emmènes avec toi, maman chérie ?» s'écria aussitôt le bambin. « Non, mon petit, c'est impossible. Tu seras longtemps parti ?»« Oh non, quelques jours seulement. Pendant ce temps-là, tu t'en iras à la campagne avec Bontemps et ta nourrice. » Et Marianne, intervenant, promit. « Vous verrez, monsieur Jean, comme vous serez heureux avec nous. Vous vous amuserez bien. Il y a un petit âne avec une belle voiture. » « Un petit âne !» s'écria l'enfant avec l'adorable versatilité de son âge. « Oh, mais je veux partir tout de suite, tout de suite. Tu veux bien, maman ?»« Oui, oui, mon ange. Va, amuse-toi, sois heureux. » Et l'étreignant une dernière fois contre son cœur, elle fit toute pantelante. « Je t'aime et je te bénis. » Puis, se tournant vers Bontemps et sa fille, elle ajouta « Emmenez-le, j'en peux plus, c'est trop. » « À bientôt, à bientôt. » La fille du banquier demeurait seule au château, commença ses préparatifs de départ, puisant dans la beauté de son acte l'héroïsme dont elle avait besoin pour aller jusqu'au bout de sa tâche. Comme vers le soir, elle se disposait à se rendre à la gare, Une sonnerie retentit dans le petit salon.
Qui peut téléphoner à cette heure? Se demanda la jeune femme.
Et se rendant à l'appareil, elle saisit le récepteur et écouta.
Soudain, son visage se convulse.
Un cri étouffé s'échappe de sa gorge.
Jacqueline vient d'entendre et de reconnaître la voix de son père, qui lui clamait « ma fille, pardonne-moi !»
Convaincue qu'elle était l'objet d'une atroce hallucination, elle s'enfuit à travers les grandes pièces vides, gagne le parc et disparut sous les arbres, s'enfonçant peu à peu dans la nuit qui s'était refermée sur elle. Le lendemain matin, de très bonne heure, une jeune femme en grand deuil et qui semblait brisée de fatigue, suivait une valise à la main une rue déserte de Neuilly. À plusieurs reprises, haletant, oppressée, elle avait dû s'arrêter pour reprendre haleine. Or, depuis un moment déjà, une ombre dont il eût été impossible de s'expliquer l'origine s'était attachée à ses pas, s'arrêtant avec elle, fluide, impalpable, étrange, mystérieuse. Était-ce quelque protecteur envoyé de là-haut? Était-ce la menace de nouveaux malheurs et de pires détresses? Quelle était cette ombre?